Tribune PSG sur France Bleu.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Tribune PSG. Au sommaire ce soir, Neymar qui régale pour sa dernière en championnat à Angers. Victoire 2-1. Un but et une passe D pour le Brésilien. Neymar qui ne jouera plus cette saison avec Paris. On fait le bilan de la saison justement de la star du PSG en début d'émission. On va regarder si c'était une bonne, une moyenne ou une très très bonne ou une très mauvaise, je ne sais pas. Bon, bref, on va voir ce que ça a donné pour Neymar dans Tribune PSG. Il sera ensuite question des gardiens de but dans cette émission. Qui sera le numéro 1 la saison prochaine? Thomas Tuchel l'a dit, c'est terminé les numéros 1, 1 bis, 2 bis, 3 bis. Il y aura désormais un numéro 1 et un numéro 2 au PSG. Qui sera numéro 1? Gigi, Kevin, Alphonse ou un autre? On tente de répondre bien sûr à cela dans une vingtaine de minutes. Il sera ensuite question de la Ligue des Champions, de la réforme. Le PSG, seul club français partant pour cette réforme avec une histoire de ligue fermée depuis Noël Le Graët. Tense le Paris Saint-Germain et charge Thomas Tuchel. Là aussi, nos débatteurs vont en parler dans l'émission. Enfin, l'adieu à la U19 de Thiago Motta après à peine une saison à la tête des jeunes du PSG. L'ancien du Paris Saint-Germain a dit adieu à ces jeunes. Va-t-il quand même rester au PSG? Et finalement, quelles conséquences à tout cela? On va en parler. Et il y a toujours Antero Henrique qui est derrière ce genre de petits problèmes et de problématiques, cette fois-ci avec Thiago Motta. Avec moi ce soir, l'équipe type. Oui, ça arrive, une équipe type. Enfin, ils sont de retour. Émilie Ross est avec nous. Salut Émilie.
Comment ça va?
Heureux de te retrouver.
Ben moi aussi, vous m'avez manqué les copains.
Et on salue celui qui la semaine dernière se faisait appeler Émilie par certains internautes.
Oui, c'est j'ai vrai. Entendu.
Voilà, Jo Spindel qui était à ta place et donc tout le monde disait salut Émilie, alors que bon, parce qu'il regardait pas trop en fait les
rassure
gens.
Rassure-toi, c'est la barbe, Jo, c'est la barbe. Je ne sais pas pour qui c'est un compliment ou pas.
Voilà,
en fait,
l'éditorialiste du PSG, vous venez d'entendre sa voix de France Bleu Paris tous les matins à 8h10. Tonton Stéphane Eltonton.
Comment
ça va, mon tonton?
Très bien, tout va bien.
Tout va bien.
Bah oui, en plus, Paris, voilà, exactement, ça fait plaisir.
Ça redonne le sourire.
Si on m'avait dit qu'un jour je serais content d'une victoire face à Angers, comme quoi.
2-1, un truc complètement dingue.
Qu'est-ce qu'on leur a mis?
Joss, le youtubeur rap et foot, le garçon arrive en nous disant salut tout le monde, ça va? Oh, j'étais au parc, j'étais en train de préparer un petit truc là au parc des Princes.
Mais faut pas dire.
Est-ce que j'ai dit?
Ouais, j'ai eu peur moi aussi.
Tu sais quoi, j'ai su en te regardant qu'il fallait pas être le
c'est la larme, c'est la larme.
L'alchimie. Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ça va, merci.
Et ben bienvenue Joss dans cette émission. Et enfin, de la team du Parisien, il est avec nous, Ronan Folgoas. On était ensemble du côté d'Angers,
oui,
samedi,
oui,
et désormais oui, tu es là dans ce studio, c'est magnifique.
Merci Bruno, merci pour ton accueil, toujours aussi chaleureux.
Eh bien, bienvenue. Allez, vous allez voir, ça va être encore plus chaleureux avec des buts de folie, des buts de la tête, le PSG, forte tête, c'est parti. Leandro Paredes qui met la marche avant, ça lui arrive quelques fois, c'est pour maintenant Neymar pour Alves, Alves qui va donner cette balle pour le but de Neymar. Goal ! La petite tête du Ney ! Magnifique ! Il rentre à la surface de réparation Neymar, la tête de Di Maria ! Goal ! Pour le Paris Saint-Germain, c'est un jeu de tête aujourd'hui pour le PSG à la 58e minute de jeu. Quel travail de Neymar sur le côté gauche et cette tête de André Di Maria qui lui aussi marque sûrement l'un de ses premiers buts de la tête pour le PSG. Et en plus lui il est à plus de 10 mètres et il la colle au fond. Bien joué de la part de André Di Maria. Erreur de marquage de la part des Angevins. 2-0 pour le PSG. Allez, Flavien Tête face à Gigi Buffon, 87e minute de jeu.
Hey, Gigi.
Ça part, oui, il arrête. Ah, non, il le met en deux temps. Il le relâche et le met en deux temps. Il l'avait touché, il l'a arrêté. Allez, c'est pas grave, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain qui enfin retrouve le chemin de la victoire. Depuis le 31 mars dernier, on n'avait pas vécu une victoire du PSG à l'extérieur depuis la victoire du côté de Toulouse. Ce PSG, on va pas demander s'il vous a rassuré, mais il a quand même arrêté l'hémorragie, tonton.
Bah oui, c'est ce qu'il fallait faire, absolument. Je voulais pas imaginer qu'il puisse terminer sur trois défaites, ou en tous les cas, trois nuls, ou pas de victoire. C'est le minimum qu'on puisse demander. C'est aussi la meilleure façon de préparer Dijon samedi prochain, la remise de l'Hexagone, pourvu qu'il se rate pas là aussi. Mais c'était bien de renouer avec la victoire. Et plutôt, moi, j'ai trouvé le match plutôt sympa à regarder. C'était plutôt sympa.
Oui, en plus, avec la tournée du Ney, on va en parler de Neymar. Oui, on va se le mettre de côté, bien sûr, parce que c'était son dernier match. Juste dans cette rencontre, j'ai envie de picorer des petites choses pour se mettre un petit peu en bouche avec déjà, on va parler, ça fait plaisir, le PSG ne s'est toujours pas communiqué, donc c'est pas grave, tant pis pour eux, mais ils auraient pu le mettre en avant. On a eu un petit jeune, Loïc Mbesso, depuis Adrien Rabiot, ouais, on n'avait pas eu un gamin de 17 ans qui s'était pointé comme ça et qui en plus a eu pas mal d'aplomb et c'est était plutôt, pas dire rassurant, mais...
Il a fait son match. On n'a pas grand chose à lui reprocher sur ce match-là.
Ouais, peut-être une petite erreur de marquage en première période, mais vraiment, c'est tout. Sinon, on l'a trouvé à l'aise, quoi, à l'aise dans la relance, ce qui n'est pas forcément son point fort, paraît-il. Bon, voilà, c'est les spécialistes de l'équipe réserve qui peuvent le dire, mais c'est pas forcément une lumière extraordinaire en relance. Et ben là, il était pas mal. Il était propre et puis physiquement, il est quand même un très très impressionnant. Ouais. Il ne laisse pas deviner ses 17 ans.
Hein, c'est ça. Je rappelle, capitaine des U16, capitaine des U17, des U18, voilà.
Ça fait un champion du monde dans 4 ans, chanson de VG Dream.
C'est ça.
Et comment.
On va éviter la chanson parce que parfois.
On sait plus trop avec les jeunes du PSG. Quand ils rentrent dans l'équipe, ils sont bien. Ils sont même parfois très bien. Ils sont pleins d'espoir.
Ah bah si quelqu'un des nouvelles de Moussa Diaby. Tout le monde était
Il y en a tous les 4 mois. Après c'est Dagba qui a l'air bien. Et il faut maintenant
Mbesso. Par exemple, moi je trouve que Colin Dagba, il a été plutôt intéressant sur ses dernières sorties. Il a rendu la confiance que Thomas Tuchel lui a donnée. Après effectivement, sur Moussa Diaby, c'est un autre cas je trouve. C'est un joueur qui a montré des très belles choses en début de saison, qui avait un petit peu de temps de jeu et qui s'entendait bien avec Neymar. C'est vrai, même si parfois Neymar n'hésitait pas à lui faire des regards comme j'ai pu le faire en début d'émission. Mais je trouve qu'il a aussi baissé dans son implication et dans son importance dans la rotation et ça explique aussi le fait qu'il joue moins.
Sur les réseaux sociaux, Émilie, on salue toute la team qui nous rejoint. Je vous rappelle, partagez l'émission un maximum, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Émilie.
Oui, tout à fait. Il y a Richard. Émilie, en direct. Il y a Richard qui nous dit qu'effectivement, Mbesso était hyper propre. Et Frédéric nous dit il a fait le job. Il dégage pas mal de sérénité.
Effectivement. Et en plus, avec un Marquinhos qui a joué le grand frère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il lui a beaucoup parlé. Il le plaçait, le positionnait.
Il était dans son rôle. C'est du marqué tout craché.
Du coup, j'ai une question qui se pose. C'est Marquinhos, il est capitaine en ce moment. Je trouve qu'il prend ce rôle à cœur et qu'il le fait bien. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit...
Il est vice-capitaine. Tuchel a été très clair.
Oui, il a été très clair, mais...
Marquinhos à Thiago Silva.
Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit, les amis. J'ai fait pousser l'idée. Après, à vous de me dire.
Pourquoi pas? Mais ça semble compliqué. C'est très compliqué. Tant que Thiago Silva est là, de déboulonner un peu Thiago Silva.
Et surtout, après la saison de Thiago Silva. T'as rien à lui reprocher cette année.
Mais après, sur le fond, moi, je suis pas loin de partager un peu ton avis. C'est que peut-être que Marquinhos, il serait plus consensuel, plus apprécié des uns et des autres. Thiago Silva, divise un peu. C'est même si cette année, il a rassemblé un peu autour de lui. Thiago Silva, c'est pas une personnalité hyper apprécié de la partie française et encore moins de la partie argentine uruguayenne, si vous voyez ce que je veux dire. Marquinhos, lui, c'est un personnage un peu plus cool.
La partie argentino uruguayenne, elle risque d'être réduite de beaucoup la saison prochaine.
Oui, n'empêche, il y en a deux ou trois quand même.
Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je vois par rapport à cette saison de Marquinhos, c'est que oui, Thiago Silva, c'est vrai. Là aussi, moi, je te rejoins, Stéphane, sur une vraie belle saison. En revanche, il n'y en a qu'un qui, depuis le 6 mars dernier, prend encore la parole, ah oui, est capable de dire des choses
ça,
dans la presse. Il s'appelle Marquinhos parce que tous les autres se planquent, que ça soit Thiago Silva ou les autres, et les cadres, le seul cadre qui tient encore à peu près la baraque, c'est quand même Marquinhos qui vient affronter les médias et vient dire des choses en plus.
Bon, après, ça décharge. Thiago Silva, il est blessé depuis le 13 avril. Hein, donc,
depuis le 6 mars, il s'est passé des choses quand même. Entre le 6 mars et le 13 avril,
C'est vrai.
Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Thiago Silva, c'est vrai que c'est un top joueur. Quand il est en forme, il n'y a pas de souci sur ça. Déjà, sa personnalité a fait pas l'unanimité au sein du club et même en équipe nationale. Et puis surtout, c'est un joueur qui se blesse aussi beaucoup. Malheureusement, il a souvent des longues périodes d'absence. Et je trouve qu'un Marquinhos qui est en plus jeune, qui représente l'avenir de ce club, ça peut être le bon moment pour lui donner le brassard.
Émilie, on l'aura pas en tout cas, parce qu'il a pris le premier carton rouge de sa carrière, ce qui a rendu fou furieux son frère. Émilie, qu'est-ce qui se passe ?
Levez la main en premier. Alors, sur Marquinhos, c'est Joanie qui nous dit cette année, Marquinhos a tout pris à cœur, son remplacement en 6, son capitana et son rôle de grand frère pour les jeunes. Et Frédéric nous dit justement, Marquinhos, capitaine, c'est une bonne idée. Par contre, il faut absolument qu'il fasse taire son frère. Parce que sur les réseaux sociaux, effectivement, son frère prend beaucoup de place et par rapport au carton, il a fait une vidéo.
Il est devenu youtubeur en plus. Son frère, donc ça va pas arranger les choses.
Ça, c'est de votre faute, les youtubeurs. Vous faites croire à des gens qui ont rien à dire que voilà, t'as des trucs à nous apporter, Joss. Alors que là, tu vas voir les Irmaos, le frangin qui est en train de faire YouTube, c'est une catastrophe.
Mais il insulte, pour nos auditeurs, il insulte l'arbitre Florent Batta quasiment en
et
direct.
Le foot français aussi.
Et puis en disant que son frère, celle de la Ligue 1, ne mérite pas son frère, etc. Blablabla. Bon, mais c'était un frangin qui réagit sous le coup de la colère, mais c'est un peu.
C'est pas la première fois le problème, C'est le problème de l'entourage, t'entends quelquefois.
L'entourage, il est important, effectivement. Ça peut faire du tort à Marquinhos sur le moyen terme.
Je leur fais pas de la peine pour l'entourage.
Petite question, tonton. À quel niveau ça peut faire du mal à Marquinhos le fait que son frère.
Il peut le mettre en porte-à-faux. S'il n'arrête pas de dire des conneries sur les réseaux sociaux et que son frère, lui, au contraire, vient parler et le mec qui s'explique à chaque fois devant la presse, à un moment, ça te met en porte-à-faux.
Et je peux faire une petite parenthèse sur l'arbitrage, parce que là, Thomas Tuchel, à la fin du match, vient nous dire « Ah bon, je comprends pas, je croyais que la double peine s'était terminée. » Bon, c'est un peu ennuyeux, parce que nous, on l'avoue, sur le coup, on savait pas exactement si Florent Batta était dans son tort ou pas. Mais franchement, après explication et consultation de certains arbitres, le règlement est hyper clair. Et il va dans le sens de l'arbitre, c'est-à-dire que quand un défenseur comme ça,
moi, je pense qu'il faut le changer.
Stéphane, quand un défenseur commet une faute comme ça dans sa surface de réparation, mais sans jouer le ballon, c'est-à-dire en ceinturant son adversaire, c'est pénalty et c'est rouge. Et c'est dans le règlement et ça peut s'entendre.
C'est dans le règlement.
Donc la double peine, ce cas-là précis, elle existe.
Oui, mais et c'est un peu embêtant. C'est le moment de mener une réflexion.
Et je trouve ça embêtant que les joueurs et Thomas Tuchel ne le savent pas ou font mine de ne pas le savoir. Ouais, alors ça, je sais pas.
Espérer quand même qu'ils connaissent le règlement.
Moi, je les trouve quand même très nerveux parce que tu mènes 2-0, on est à la 88e minute de jeu, t'as quand même des gars qui s'énervent comme très mal à l'arbitre.
Oui, justement, parce que tu mènes 2-0.
Ce qui est très bon, c'est de voir d'ailleurs Marco Verratti venir calmer Marquinhos. Ce qui est quand même très bon. C'est l'image pour moi, si on devient schizophrène en fait au Paris Saint-Germain, tu dis tiens, c'est Marco qui va calmer Marquinhos. Ouais. Marquinhos qui n'a pas pété le vent, mais c'est vrai que son frère, attention quand même cet entourage
T'as raison, et tout ça, ça dénote quand même toujours pareil. On revient à l'état d'esprit. L'état d'esprit n'est pas bon. On a parlé tout à l'heure d'un possible changement de bras pour le brassard de capitaine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que s'il suffisait d'enlever le brassard à Thiago Silva et de le donner à Marquinhos, qu'il mérite, il n'y a aucun problème aussi, juste faire ce transfert-là et se dire ça y est, maintenant tout va aller bien. C'est une fois de plus, c'est déjà prendre la mauvaise voie.
C'est pas
ça peut être lui. Bon, Neymar, effectivement, on en a parlé. C'est pas, mais on va y
arriver. C'est comme quand tu veux refaire ta déco, mais t'as pas d'oseille. Du coup, tu bouges tes meubles. tu rachètes rien, mais tu bouges tes meubles.
Nous, à la place de Valérie Damido, on a pris Antero Henriquez, qui dit pas. Hein. C'est un peu austère, comme.
Ça m'arrouve,
effectivement. Juste un truc. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer avec quelle défense on joue sur. Parce que là, donc. Première but, Thilo Kehrer, c'est mal barré. Presnel Kimpembe, on n'est pas sûr. Thiago Silva.
Il est suspendu, Bruno.
Kimpembe, oui, c'est suspendu. Ça, suspendu. Donc voilà. Donc on a pas de Thiago Silva.
Alors Silva, quand on dit qu'il pourrait être là pour la Copa América, est-ce que c'est pas que ça va déjà un peu mieux?
Non, trop frais. Là, il a subi une intervention au ménisque. Il y a une dizaine de jours maintenant. Donc là, c'est trop frais encore.
Trop frais encore.
Non, et puis il prendra surtout aucun risque. S'il a une chance de jouer à Copa América, il faut surtout pas.
Là, on a Mbesso. Donc le petit. Voilà, premier match au parc.
Il va avoir sa deuxième titularisation.
Mbesso, et puis non, Kerrer, il y a une chance qu'il revienne. Et puis Paredes peut éventuellement dépanner,
voilà,
quoi.
C'était
et
ça puis, son rôle, on
ne
savait pas.
Non,
c'est la je mettrais plus un Kurzawa, et puis ouais, Bernat à gauche, plutôt mettre des défenseurs, même si latéraux, plutôt que Paredes qui est déjà perdu au milieu de terrain, le pauvre, en défense.
C'est sûr que Paredes et Mbesso, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Non, mais c'est vrai, pour un match au parc, tout ça, avec l'environnement.
Pas bien du tout.
Ah bon?
Ah bah non. Antoine Comboy qui a besoin de points et qui revient au Parc des
Princes. Il a dit qu'il voulait gâcher la fête. Il a annoncé qu'il voulait gâcher la fête. Bah, ils jouent le maintien.
S'il y a des parieurs, tentez une petite piècette. Hein.
Moi, non, puis en dehors.
Un Dijon.
Bien sûr.
Bah,
dans la situation actuelle, on est capable de leur mettre 8 ou 9 chez eux, même sans aucun problème. Sur un match comme ça, en plus, j'ai peur, tu vois, c'est la remise du trophée. Pour bien casser l'ambiance.
Tonton a peur, les gars.
À l'image de la saison.
Bah oui, oui.
Ce serait le scénario catastrophe, mais idéal par rapport à ce qui s'est passé.
Allez, on passe à la suite dans cette émission. Il est 17h53. Vous êtes dans Tribune PSG. N'hésitez pas à partager, bien sûr, l'émission sur les réseaux sociaux. Et on va passer à Neymar. Neymar qui a donc appris qu'il prenait 3 matchs plus 2 après sa poussette sur un supporter, un fan, un spectateur de la finale de la Coupe
on
de France.
On peut le dire ou pas? Je vais avoir un procès. De toute façon, comme ça, je rejoindrai un ami qui en a déjà un con.
De quoi?
Bah, le mec.
Ah, le monsieur?
Bah oui.
Le spectateur?
Bah oui.
D'accord.
C'est pas une grande preuve d'intelligence, quand même.
D'aller insulter. Bon,
apparemment, plus lui-même étant plutôt raciste, donc, c'est là que j'ai pas compris. Et bien, ça amène tout
de
suite.
Oui, bien sûr, bah, de toute façon, on rappelle, Neymar, 3 matchs plus 2, hein.
Bah oui.
3 matchs fermes et 2 exorcismes.
Alors là aussi, on va dire qu'on applique le règlement et ainsi de suite. Ok, mais là, à un moment, il faut pas seulement appliquer le règlement, il faut regarder les faits, ce qui s'est passé. D'abord, la Fédé est coupable d'avoir laissé, de pas avoir protégé les joueurs quand ils montrent recevoir leur trophée. Je suis désolé. Là, c'est juste des mots. Si c'est un couteau, il se passe quoi?
Ah oui, mais il y a un contrôle à l'entrée, Stéphane. Là, bon, les couteaux.
Il y a jamais de.
Mais après, franchement, il n'y a jamais eu un problème. Après, je te rejoins pas complètement parce que.
Tu protèges
parce
pas que, les mecs.
Non, mais parce que le supporter en question. Ok, il est débile. Il a pas à se comporter cette façon. Oui. Mais Marco Verratti, lui, quelques secondes avant Neymar, il passe, il est traité de raciste. Et ben, il ne réagit pas. Parce qu'un joueur professionnel, ça doit être capable, même dans des conditions comme ça, même après une finale de Coupe de France perdue, il doit être capable de passer un peu au-dessus de ça. Autrement, c'est la fin. Voilà,
ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que ce qu'avait fait Neymar, c'était bien. J'ai dit juste
qu'est-ce qu'il a fait, Neymar.
Sanction était, oui, en plus.
Qu'est-ce qu'il a fait, Neymar? L'angle de la vidéo, on voit rien du tout.
Il a donné un petit coup de truc.
Faut arrêter.
On a l'impression qu'il est mort à la suite de coups et blessures. Non, Neymar ne devait pas faire ça, mais Neymar devait pas prendre 3 matchs pour ce geste-là.
Chose.
Parce que t'as des mecs qui peuvent te casser, te faire des doubles fractures sur le terrain, on leur donne 3 matchs.
Au-delà du geste de Neymar, moi je trouve que ça dénote surtout d'une incompétence des instances et des médias qui ont donné une tribune et la parole à cet individu. Je suis désolé, les vidéos elles sont criantes, on voit très bien ce que fait l'individu qui est dans la provocation, qui cherche les joueurs.
Il a publié lui-même avant tout le monde.
Voilà, ensuite il y a tout un mélodrame qui a suivi, il s'en est plaint, il a joué sur ça, il a voulu coller des procès à tout le monde. Et puis surtout, ça montre aussi qu'on est incompétent pour pouvoir protéger nos joueurs. On parle quand même du troisième meilleur joueur du championnat. C'est notre plus grande vitrine et on va potentiellement.
Planète, tu veux dire.
Oui. Oui. On va potentiellement s'en priver pour un trophée des champions, c'est ça?
C'est ça. Il va se passer.
J'ai la commission de discipline de la fédération, elle est pas dans un calcul en train de se dire mince, on va dégonfler le trophée des champions de la Ligue.
Mais c'est là où il faut l'aide. Mais oui, il faut arrêter à un moment donné.
Tu parles règlement connement, tu me rappelles ces mecs qui m'arrêtent sur le bord de la route parce que je suis à 71 au lieu de.
Mais là les garçons, vous oubliez un truc. C'est de la cuisine interne. Mais d'un côté, t'as la fédération génération.
Je sais, la
Ligue. D'autre côté, t'as la Ligue. Je suis pas sûr que les deux équipes jouent exactement dans le même sens. Et là, on le voit bien, on le voit bien. Donc c'est pas un manque de calcul.
Quel message
c'est au contraire. Bon, bref, si certains qui auraient l'esprit tordu diraient au contraire qu'ils ont fait exprès. Mais bon, ça c'est pas.
Merci Émilie.
Oui.
Bonne journée. Non, mais je prends tout ça, j'essaie de remettre les commentaires dans le bon sens. Il y a Mathieu qui nous dit, pour moi, la France du foot ne mérite pas de voir un nez jouer dans les stades de France.
Ah oui.
Paris fan qu'on embrasse.
Oui.
On peut sanctionner Neymar, son geste n'est pas le bon, mais le supporter aussi doit être puni. Et il y a Malagasy qui nous dit, concernant la sanction de Neymar, on sait dorénavant qu'en France, il est possible d'insulter de raciste quelqu'un sans être inquiété. Cette commission est juste une sinistre blague.
Alors, juste pour information, le Paris Saint-Germain a fait appel de ça. Renseignement pris, je pense que c'est pas la meilleure des idées, puisqu'à première vue,
oui,
cette commission,
général, ça peut que monter.
Elle valide juste où elle se dit, on reste à 3+2, ou on va peut-être monter même un peu plus. Donc je pense.
Mais on sait jamais après le PSG dans son rôle aussi en essayant, parce qu'après tout, ils ont quoi à perdre? Éventuellement que Neymar prenne un quatrième match, et
auquel cas
il serait. Auquel
cas il serait privé de la première journée de la Ligue.
C'est qu'ils le prennent pour ça.
Il sera pas sur PSG Brest? L'année prochaine, au mois d'août.
Attends, non, mais tonton, faut arrêter ça aussi. Faut qu'on arrête de. Moi, franchement, j'en ai marre des. Oui, on joue Angers, on joue Brest. C'est notre championnat. Si tout le temps, on rigole des équipes qu'on joue et qu'après on dit.
Mais non, mais c'est vrai.
Laisse-moi finir, tonton. On peut pas dire que le PSG vise que la Ligue des Champions et on rigole des autres équipes. Et après, demain, tu vas dire, ouais, mais on est champion et les supporters sont pas heureux. En même temps qu'on dit l'affiche PSG Brest et qu'on en rigole. Normal que personne ne soit excité.
Il va prendre un match.
Tu fais du mal. Non, mais Stéphane, tu fais du mal à la Ligue 1. T'es en train de dévaloriser le produit.
J'ai pas dit ça. La Ligue 1
Mais c'est notre championnat. Faut le valoriser plutôt que de crier.
Juste, restons sur Neymar.
C'est pas moi qui vais dévaloriser ça. Et j'attends avec impatience le Brest-Paris Saint-Germain du mois d'août.
Ouais. Ouais, ok.
Si, ça peut être sympa.
Bah oui,
c'est vrai. Bah bien sûr.
Francis Leblay, franchement, on se régale à chaque fois.
Bah ouais.
Je repars sur le débat Neymar parce que j'ai une question.
Oui, parce que après, j'aimerais qu'on fasse un bilan de Neymar aussi sur sa
saison. Il n'est que 20h, écoute, attends. Laisse-moi un peu de temps. Il y a Dominique qui nous demande pourquoi le PSG ne porte-t-il pas plainte contre cet imbécile, c'est-à-dire contre le supporter. Est-ce que c'est possible ça?
Je pense qu'ils attendent déjà de savoir comment ça va se terminer sur Neymar avec.
Oui, ils n'ont pas voulu mettre de l'huile sur le feu, je pense.
Ce que je sais, c'est qu'ils ont fait un dossier épais comme le bottin. Sur cet individu, voilà, ils ont fait des enquêtes de personnalité, ils sont allés les deux pieds décollés, et je pense qu'il y a une vraie frustration aussi du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été payés sur le travail qu'ils ont fait. Et il a fallu, sachez-le aussi, déminer un petit peu, parce que finalement, le geste, nous, en France, on l'a très peu commenté par rapport au débat que ça a envoyé au Brésil, le PSG, qui s'est, qui n'a pas communiqué en France, ou très peu, et pas du tout d'ailleurs, sur cette affaire, a dû faire de la communication au Brésil, car au Brésil, il y avait des débats avec certains analystes qui voulaient que Neymar soit aussi suspendu en sélection pour la Copa América.
C'est incroyable.
C'est incroyable, c'est parti.
La grille de lecture brésilienne, elle est perturbante, parce qu'on se dit, mais alors, c'est nous les Français qui sommes trop complaisants à l'égard de ce genre de gestes. Mais pour eux, les Brésiliens, effectivement, c'était une affaire sérieuse, grave. Oui, et leur propre idole, entre guillemets,
elle
devait être payée.
Je rappelle quand même qu'ils ont un contentieux quelque part avec lui, avec ce qui s'est passé cet été à la Coupe du Monde. Évidemment, il n'a pas renvoyé la meilleure image possible de l'équipe du Brésil. Oublions le Paris Saint-Germain. Il a été la risée du monde entier sous le maillot de la sélection nationale.
Et si bien que pour les grands médias brésiliens, la suspension de 3 matchs, finalement, c'était une suspension assez douce.
Assez clémente.
Ouais, exactement.
C'est ce qui est ressorti.
Il va manquer le match contre le Venezuela et je ne casse pas la Copa América.
Oui, Émilie.
Et dernière chose, il y a Sébastien qui nous dit, si ça avait été un autre joueur, aurait-il pris la même sanction?
Ouais,
je ne suis pas sûr.
Je me pose la même question. Exactement. Je suis tout à fait d'accord.
Kylian Mbappé a pris 3
matchs. Pas un autre joueur que.
Mais pourquoi?
Pour la même chose.
Oui, je ne vais pas donner d'équipe parce que je vais s'accuser de quoi que ce soit.
Non, mais si tu étais un joueur beaucoup moins médiatique, il n'y aurait évidemment jamais eu d'histoire.
Exactement.
Voilà, donc pas de commission de discipline et voilà.
Enfin, nous allons faire le bilan de Neymar puisque c'est terminé pour cette saison. On rappelle qu'il a fait 27 matchs cette saison avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. 22 buts, 12 passes décisives. On a eu la lecture que j'en ai, et ben vous allez peut-être me tomber dessus, moi la lecture que j'en ai, c'est qu'on a eu un Neymar qui est arrivé début août avec le bon état d'esprit. Il a voulu se mettre dans le bon sens avec le PSG, il a été un vrai leader technique, il a pris les clés du camion, l'a fait démarrer et ça s'est plutôt passé.
Il est le patron du PSG sur le terrain aujourd'hui. Même plus encore qu'Mbappé. Le taulier au Paris Saint-Germain sur le terrain, c'est Neymar. Là, il y a plus photo. Il y a l'ambiguïté de l'année dernière.
Ouais, c'est clair que en plus les stats parlent pour lui. Franchement, c'est un joueur extraordinaire, classe mondiale, top 3. Maintenant, en fait, c'est l'image qu'il va renvoyer auprès de son équipe dans le vestiaire. Il est souvent absent. Il est très fragile. Il a des sauts d'humeur. Il a des passes droits qui ne sont pas les mêmes dans tout le vestiaire. Donc, quand on a tous ces avantages-là, faut être soit irréprochable dans son comportement ou être totalement présent du début à la fin sur une saison, comme un Messi ou un CR7. Et malheureusement, à chaque fois, ben, il se blesse au pire moment.
Mais il y a deux mois de vide.
Et voilà, à chaque fois, il rate les moments clés de la saison. Donc, moi, j'espère vraiment que l'année prochaine, il pourra faire une année complète sur laquelle on pourra vraiment le juger.
Il y a deux lectures, en fait.
On va venir voir. Après, si on regarde un peu le déroulé de la saison, je sais pas si vous vous rappelez, premier match de la campagne européenne à Liverpool, un tout petit Neymar. Ouais. Il était pas en jambes. Il manquait de gaz, il manquait d'idées, ça n'allait pas. Et après, quand même, pendant l'automne, là, il monte en puissance et c'est lui qui aide quand même le PSG à sortir du guépier là de la phase de poule. Et donc on a quand même un grand Neymar par moment sur certains matchs là au début de l'hiver. Et puis finalement il se blesse alors qu'il est au top, ouais. Quoi. Je veux dire,
parce qu'il y a eu ce replacement. On rappelle, il y a eu ce replacement dans le jeu, déjà de la part de Thomas Tuchel. Il y a eu la calinothérapie de Thomas Tuchel qui lui a redonné le sourire.
Qu'ils s'estiment tous les deux.
Qui lui a redonné le sourire au PSG quand même, parce que.
Non, mais
on a beau me dire ce qu'on veut du côté du Paris Saint-Germain, il nous a fait la gueule pendant une saison l'année dernière. Enfin, la saison dernière.
C'est
ça. Là, cette année, c'est une autre saison.
Déjà, tu compares les deux saisons et il n'y a pas photo.
Exactement.
C'est bien, bien mieux réussi, bien plus abouti cette saison. Donc, déjà, tu balayes avant. Après, effectivement, il est venu pour être là pour les matchs importants et malheureusement, parce que c'est sur blessure, donc on peut pas lui reprocher d'avoir été suspendu ou quoi que ce soit pour les matchs face à Manchester. Tu peux te dire que malheureusement, il a raté ce pourquoi il est venu au Paris Saint-Germain, c'est être présent dans les grands matchs et faire la différence et permettre à Paris de franchir ce cap que Paris n'a toujours pas franchi malgré sa présence.
Émilie.
Alors, ça réagit bien sur le cas Neymar. Il y a Guillaume qui nous dit « Joueur fragile qui attire les tacles bouchés, mais quel joueur, pas encore assez décisif en C1, mais ça va venir. » Philippe nous dit « Il est tellement au-dessus, Neymar. » Mathieu dit « Ni bonne ni mauvaise saison, je dirais moyenne, car il aurait pu faire mieux. » Lolo JP nous dit « Ney est trop souvent blessé, quel dommage. » Et Frédéric nous dit « Un top player qui tire ses coéquipiers vers le haut, est-ce le cas? Pas certain. »
Messieurs, est-ce que ça vous fait réagir?
Un top player qui tirera ses coéquipiers vers le haut, il n'y en a pas 500. Moi, j'en vois qu'un. Concrètement, c'est CR7. Même Messi n'arrive pas à tirer le meilleur de ses coéquipiers. On l'a vu face à Liverpool. Voilà. Ce qui est aussi sympa sur cette saison, c'est que le principe de la remontada, il s'applique plus qu'à nous aussi. Voilà. Ah, donc ça, c'est un point positif.
Je suis content que tu en parles.
Ah bah oui, parce qu'il faut le dire aussi.
Ami barcelonais. Voilà.
Si j'ai un conseil pour Barcelone, le PSG, déposer ce terme. Déposer le terme remontada, là on en a bouffé à toutes
sachez-le,
les sauces.
PSG Le Mag est sorti aujourd'hui ou sort demain et ils se sont amusés, ils en rigolent un petit peu, c'est 45 ans de remontée. Voilà, ils le tentent. Plutôt pas mal.
mais en fait, comme l'a dit Tourelle.
Non, ça vous a pas plu, ok, je parle. j'ai vu que j'ai fait un four, je vais retourner un peu.
Non, mais comme l'a dit Tourelle.
Comme l'a dit Tourelle, en fait, Neymar, c'est pas un leader qui se voit avec le capitana. Mais par contre, c'est un leader technique. C'est celui qui va réussir, en fait, à faire la différence. Et avec cette image-là, cette conception, il peut justement galvaniser ses coéquipiers. Mais le problème, c'est encore une fois qu'il est rarement là lorsque on en a le plus besoin. Sur des matchs de Ligue 1, Kylian Mbappé, il peut prendre son
seul. Il n'y arrivera pas seul.
Il est capable
de gestes qui vont dans l'autre sens te faire gagner, mais il ne pourra pas t'éviter à chaque fois la défaite si les autres ne suivent pas.
C'est pas ce que j'ai dit, tonton. J'ai dit que dans un match où Neymar sera là face à un Manchester, Il suffit qu'il passe 2-3 joueurs et que les autres prennent confiance aussi.
Oui, bien sûr.
C'est dans cette influence-là que je pense que Tourelle aurait aimé le voir, mais peut-être pas avec un capitaine.
Même à mi-temps, avec ses stats, tu prends quoi?
Ah bah ça c'est clair. Et juste petit message, je rappelle, hein, Instagram, il est allé poster Neymar jusqu'à la prochaine Ligue 1.
Mm-hmm. Voilà. Ouais, à la prochaine. Rendez-vous l'an prochain, quoi.
Moi, j'ai lu comme ça, quoi.
Rendez-vous la saison prochaine.
Ouais, c'est ça.
Mais,
J'arrête avec Brest.
Ils vont avoir un problème avec le lobby breton.
Je les adore. Le Vlad, il les adore.
Bah oui. J'ai toujours aimé
non, mais il regrette et aussi la relégation de Guingamp et il a fait savoir que voilà que les petits déplacements au Roux-du-Roux pourraient lui manquer.
C'est ça.
Mais non, mais blague à part, il donne rendez-vous la saison prochaine. Oui, c'est un message rassurant pour tout le monde.
Je pense qu'il sera là.
Vous
donc
il sera là.
Là, clairement, avec ce message, ça laisse plus beaucoup de place au doute. En général, il aime bien manier l'ambiguïté quand même, comme il l'a fait il y a quelques temps là, en disant que bon, dans le football, tout était possible. Là, c'est pour le coup, c'est assez clair.
Je pense qu'aujourd'hui, il est même plus lié au Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé.
C'est bien possible. Ouais. C'est bien possible. Et là, d'ailleurs, moi, je pense que le sujet à venir, enfin, pour la saison prochaine, c'est comment va évoluer un peu ce duo.
Ouais.
Est-ce que la complicité va perdurer? Est-ce que la rivalité ne va pas prendre le pas? Je sais pas. Il y a un truc à voir entre ces deux-là.
Tous les deux, pour l'instant, parce que Paris se porte bien, s'ils veulent aller vers leur projet commun, qui est de remporter le Ballon d'Or. Ça, c'est petit 1. Tant que Paris s'arrêtera en 8e de finale, voire en quart, c'est pas envisageable de remporter le Ballon d'Or.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un très beau geste ce week-end pour Neymar. C'est quand même la déclaration de Stéphane Moulin, qui, l'entraîneur. On a Thierry Lauré, qui est un 31
Encore
janvier.
Un Stéphane.
Voilà. De quoi?
Son top, c'est Stéphane.
Stéphane? Ah ouais. Ah, c'est des mecs.
C'est
l'élite.
Ça va
pas dire
ça
les
millions, hein? Il est décontracté.
Bah ouais.
Mais voilà, on rappelle que Stéphane.
Voilà. Mais apparemment, faut tout décrypter.
Non, moi j'ai rigolé sur ton.
Merci. Il y en a un qui me suit, mais c'était pour rire.
Stéphane, voilà. Stéphane Moulin. Revenons sur Stéphane Moulin et ses paroles qui, a applaudi et un journaliste angevin est allé poser la question. À Stéphane Moulin en disant vous avez applaudi Neymar à sa sortie et il dit bah oui attendez voilà c'est l'un des meilleurs joueurs
du monde. Sa déclaration elle est top.
Voilà et
devant le talent je m'incline.
Devant le talent je m'incline c'est
on,
ça.
On peut que s'incliner devant le talent et moi j'espère que cet été les arbitres vont aussi revoir leur copie parce que cette année je suis désolé c'est pas pour critiquer hein, mais
non pas du tout.
Non c'est vraiment pas pour critiquer mais Neymar prend un nombre de coups incalculable et ce serait bien je dis pas qu'il faut le surprotéger mais ne serait-ce que ça aurait pu être évité la blessure qu'il a eue, par exemple, si l'arbitre avait sifflé plus tôt. Et je pense qu'il est aussi nécessaire pour les arbitres de revoir leur copie et d'essayer d'être encore plus performants l'année prochaine pour protéger nos talents dans ce si beau championnat.
Émilie.
Juste pour reprendre des mots de la déclaration de Moulin, parce que
ça a été ton gros kiff du week-end. Oui, c'est que rare. Ton joueur soit défendu par l'entraîneur adverse.
Oui, mais surtout avec les mots justes. Enfin, il a dit exactement ce que je pense, donc du coup, je m'y retrouve bien. En disant, c'est un joueur de classe mondiale, je ne comprends pas pourquoi il est sifflé, c'est un artiste, il faut le protéger. Montre du spectacle, on paye pour le voir. Ceux qui sifflent sont les mêmes qui ne viendront pas si Neymar n'est pas là.
Mmh. Exactement.
Et je trouve que
c'est totalement vrai.
Bah oui. Encore à Stéphane.
Renaud, tu as l'air dubitatif sur cette sortie de.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. On était aux premières loges pour assister à cette conférence de presse de Stéphane Moulin. C'était sincère. Et puis après, voilà, on peut pas empêcher le public, que ce soit à Angers ou ailleurs, de siffler quelque part une forme de jalousie, tu vois, voilà, on n'a pas un talent comme ça nous dans nos rangs. Il leur a fait très mal sur ce match parce que Neymar, franchement, là où Stéphane Moulin aussi a raison, c'est qu'il leur tire une grosse épine du pied à Angers Neymar parce que sans lui, je sais pas comment le PSG s'en serait sorti avec un Cavani qui traverse le printemps là comme une ombre. Di Maria, qui était là en promenade du samedi après-midi, mais sans plus. Heureusement qu'il était là, clairement.
Bon. En tout cas, pour Neymar, retour, bien sûr, après, à part si la commission, nous permet de, la Fédé nous permet de revoir.
S'il a un match en moins, il sera pas là. Il sera là au, au Trophée des Champions, point barre.
En tout cas, à 18h10, on c'est passe abusé. À l'autre sujet qui nous a été soufflé à l'oreille par Thomas Tuchel, qui vendredi, j'aime Thomas Tuchel pour une chose, c'est qu'il y a toujours un peu de biscuit. Parce que il y a d'autres, non mais c'est vrai, ouais. Il y a toujours un petit truc, tu il se passe de, toujours ouais. quelque chose, tu ouais. sors d'une conférence de presse de Thomas Tuchel, il y a toujours un petit truc, parce que on peut me dire de faire un comparatif avec voir le Basque ou le Cévenol. C'était pas toutes les conférences de presse.
Le finaliste de la Ligue Europa.
Voilà, ouais, oui. Bah, tiens, ouais, d'ailleurs, on en parle 3 secondes avant de parler des gardiens de but et de Thomas Tuchel.
J'adore prendre.
On a quand même Lucas qui est en finale de Ligue des Champions.
C'est bien. Je suis très content.
Tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y avait une certaine forme d'incompétence. Je suis désolé, mais je vais le redire. Lucas, il faut se rappeler quand il part du PSG.
Lucas, quand même.
Mais bien sûr, les gens, ils aiment trop critiquer le PSG. Mais quand il part du PSG, il est catastrophique, Lucas, même si c'est sa meilleure saison.
Mais justement, c'est ça la question à se poser, Joss. Et moi, je suis à fond avec toi. Moi, je veux pas pleurer mes joueurs, même si j'adorais Lucas. Il part, il est mauvais. Et là, ils performent. Moi, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'on les nourrit comment, nos joueurs?
Je suis d'accord.
Voilà. Et c'est ça mon problème.
C'est ça le problème. Mais on ne peut pas le pleurer.
Il n'a plus jamais moufté à Tottenham.
Tu il ne joue pas.
Non, mais.
Il ne joue plus. Il ne joue plus.
Parce que tu l'as entendu sur les réseaux sociaux. Je suis totalement d'accord. Son entraîneur, il était gaze et que ses coéquipiers.
Vous vous rappelez ce qu'a dit Pochettino?
Il ne va pas le faire chaque année non plus.
Non, mais vous rappelez ce qu'a dit Pochettino?
Mais ils ne le font jamais dans ces équipes-là.
Un mec comme Ben Arfa, tu es en train de t'apercevoir que partout où il passe, il fout un peu la merde. Quand même.
Non mais le club Tottenham c'est hyper tenu. J'en discutais il y a quelques jours avec un ami un conseiller de Lucas, qui a une relation professionnelle avec Lucas. Il disait qu'il y a une hygiène de vie et puis une discipline collective qui est hyper importante. Les joueurs sont ensemble au petit déj, ils arrivent ensemble sur le terrain d'entraînement. Et il me disait en comparaison le PSG, évidemment c'était un club de vacances parce qu'il y avait des règles beaucoup plus souples.
Non, mais même sportivement.
Et donc
c'est l'exemple. Hein, malheureusement Paris n'est pas parti pour s'inspirer de cet exemple-là.
Apparemment Tourelle a dit que ça allait changer l'année prochaine, qu'il y aurait des nouveaux.
Mais que Tuchel soit plein de bonnes intentions, j'en doute pas. Il faudra qu'on lui donne les moyens d'appliquer les choses. Si Tuchel, il veut faire respecter le règlement et qu'il veut que tous les mecs prennent le petit-déj ensemble et qu'un matin, il y en a un qui vient pas et que le président tape sur l'épaule du mec en lui disant, bon, allez, c'est la dernière fois que tu viens pas au petit-déj, eh ben, on n'avancera pas.
C'est vrai, mais là, Tuchel, si on fait aussi le bilan rapidement, peut-être, Bruno, de Tuchel, sa première saison, il est en phase d'observation. D'un grand. Ah, pardon.
Ah, t'inquiète,
non, mais juste petite parenthèse sur toi, il est en phase d'observation d'un.
Sujet, on va être complètement perdu. Moi, j'avais appris tout par cœur, donc tout s'est arrêté.
Tu arrêtes un peu, oui.
On disait donc.
Thomas Tuchel. Dis-moi.
Il est en phase d'observation et de séduction cette année. C'est la première fois qu'il était au contact d'un grand vestiaire. On peut oser espérer que l'année prochaine, il mette un peu plus sa patte dans le management et il impose plus de choses.
Il faut espérer.
Voilà, il faut l'espérer.
Il n'a pas le choix, sinon il part droit dans le mur et il va sauter.
Il part tout court. Voilà. C'est lui qui fera le. Il peut faire le choix de partir, hein, si on lui laisse pas le passer l'intersaison. Il sera là l'année prochaine. Mais si ça se passait pas bien, si il voit qu'on commet les mêmes erreurs autour de lui l'année prochaine, eh bien, ça sera difficile de le garder.
Il y a Paris Fan qui a rebondi sur ce qu'on a dit en disant imaginez Choupo part et devient finaliste de la Ligue des Champions.
Eh ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Dans un monde alternatif.
Je voudrais juste dire que Serge Aurier, quand il est arrivé à Tottenham, je vous rappelle juste que Pochettino lui a posé la question. La presse anglaise s'est pas fait prier en lui disant si jamais il vous fait ça. Mmh. Et qu'est-ce que Pochettino a répondu? Il fait vous inquiétez pas, je suis déjà allé le voir. Directement pour dire que s'il me faisait ça, je lui pétais la tronche. Voilà. Et c'était réglé.
Non, mais c'est pas étonnant.
Il n'y a pas de secret.
Tu vois la construction.
Parce que moi, c'est pas Lucas. Moi, j'étais pas pour Tuchel. J'étais pour Pochettino. L'année dernière, on pouvait reprendre tout ce que vous voulez. Ouais. J'avais annoncé que c'était la bonne pioche parce que lui, c'est un ancien
de la maison. Sauf qu'on lui a laissé le temps de construire de chaque saison.
C'est ce qu'il va falloir laisser à Tuchel. De toute façon, t'as plus le choix.
Ah bah oui.
Parce que tu crois qu'on va lui laisser 4-5 ans pour s'installer, pour avoir un beau stade.
Est-ce que quelqu'un veut s'intéresser au gardien de
but?
Oui, c'est trop bien.
Est-ce qu'on va parler d'Antero Henrique un petit peu?
Oui, grâce à Thiago Motta, ne t'inquiète pas, dans quelques minutes, on va parler d'Antero Henrique. Mais en tout cas, pour le moment, on va remercier donc Thomas Tuchel qui nous a glissé cette petite info. L'année prochaine, il n'y aura plus d'alternance de une fois à toi, une fois à moi dans la cage. Il y aura un numéro 1, il y aura un numéro 2,
Bruno,
il y aura un numéro 3.
Une info, oui, mais surtout un gros message. Alors là, on est dans le domaine de l'interprétation, je précise bien, mais je ne sais pas si vous êtes du même avis ou pas. Gros, gros message, évidemment, pour Gigi Buffon. Pour lui dire, Gigi, comment te dire ça va pas forcément être possible pour l'année prochaine. Moi, évidemment, je l'ai interprété comme ça, bah mais, oui, je, mais ce n'est pas...
C'est comme toi, hein, évidemment.
On va juste aller sur Twitter dans quelques instants pour connaître le sondage, parce qu'on vous a posé la question de savoir qui on mettait en numéro 1 du côté du Paris Saint-Germain. Attends deux secondes. Oui, oui Joss.
Ce débat il est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Ronan. Il y a cette petite phase en fait d'expérimentation pour Torel, parce que quand on se souvient en début de saison, il avait dit que justement le système de rotation c'était intéressant et ça permettait aux deux gardiens de rester en jambes. Mais force est de constater qu'il s'est rendu compte que finalement possible de jouer comme ça, et que comme il l'a dit, il y a aucun grand club européen qui fonctionne de cette façon.
Et tu t'imagines, il débarque au Paris Saint-Germain, on lui dit t'as Gigi Buffon et tu as
compliqué. Alphonse,
voilà, qu'est-ce qu'on fait, tu tranches.
Mais messieurs, moi je suis désolé, ça c'est, enfin alors au risque de vous énerver, mais ça ne s'est pas si mal passé que ça. Évidemment, le bilan il est entaché parce qu'il y a une boulette énorme de Gigi Buffon contre Manchester United.
Mais ça suffit.
Mais je sais. Mais est-ce que pour autant ça doit invalider complètement ce système qui a été mis en œuvre cette saison?
Totalement, parce qu'il faut ensuite justement prendre en compte les témoignages des joueurs. C'est les défenseurs aussi qui s'en sont plaints, parce que les automatismes pour un défenseur qui a un gardien tous les 2-3 matchs, c'est pas pareil. Donc je pense qu'il y a eu aussi une conversation entre toute l'équipe.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment la cause principale de l'élimination précoce du PSG, hein, mais bon bref.
La question qui a été posée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à nos internautes, qui en numéro 1 la saison prochaine au Paris Saint-Germain? On a proposé 4 choix. Nous avons proposé Gianluigi Buffon en numéro 1 au Paris Saint-Germain. Nous avons proposé Alphonse Areola en numéro 1 au Paris Saint-Germain. Nous avons proposé Kevin Trapp, toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, qui a fait une super saison avec l'Eintracht Francfort. Du côté du championnat d'Allemagne. Ou sinon, un autre gardien.
Dont on n'a pas donné le nom.
Dans ce cas-là, tu dis oui, bah notre gardien, oui.
Mais ça dépend de quel. Salvatore Sirigu.
Qu'est-ce qui lui arrive?
On remonte d'un cran chaque année, donc on ose parler de Trapp. Alors allons-y,
Dream Bigger,
Bernard Lamas est en forme.
C'est pas cool, parce que Trapp, il est arrivé demi-finaliste d'Europa League avec Francfort. Il fait une bonne saison.
Surtout qu'il est allemand, que Thomas Tuchel n'est pas complètement insensible aux Allemands et qu'il suit beaucoup la Bundesliga.
Il a été performant cette année, Trapp.
Mais Stéphane, il n'est pas non plus transfiguré. Faut arrêter un peu là. Kevin Trapp, il fait une bonne saison. Mais vous regardez le match contre Chelsea.
Que je mette des lol
non, mais c'est
vrai.
Non, mais...
Sinon, on va pas me suivre. Évidemment,
tu sais
quoi, je suis d'accord avec toi.
T'as pas un pote qui pourrait faire des cartons avec lol?
Non, mais désolé, tonton, mais ça m'a énervé. Alors, j'ai plongé, quoi. C'est le cas de le dire.
Jean-Michel, premier degré.
Ça va être sérieux.
Émilie, les résultats sur Twitter pour.
Alors, en quatrième position, Gigi Buffon avec 5% des voix, donc ciao Gigi.
Voilà, ça c'est ciao Gigi.
Troisième position, Trapp avec 22%. Areola avec 30%.
D'accord.
Ce qui sous-entend que à 43%, tout le monde voudrait un autre gardien.
Un nouveau gardien.
Oui, quand même, hein.
Est-ce qu'autour de cette table, vous préférez un nouveau gardien ou il faut asseoir Alphonse Areola, qui semble-t-il, les échos qui nous reviennent, a pris un peu la grosse tête? Beaucoup la grosse tête, qui a du mal à écouter certaines choses.
Bah, il va falloir qu'il redescende, hein, comme les autres. Ça me ferait mal encore que lui aussi aille réussir ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on a un bon gardien. On a le numéro 3, et quand j'ai vu Mandanda hier, je me dis qu'il est peut-être même numéro 2 chez les Bleus.
Le monsieur qui va tout doucement pour récupérer
Il a
net trop, hein, ouais, c'est comme Buffon. Ouais,
mais bon, restons sur Alphonse.
Pour moi, naturellement, il doit devenir le numéro 1.
Il ne partira jamais. Mais vous savez pourquoi?
Non.
À niveau salarial, il a un salaire magnifique.
Voilà.
Pour un gardien, ils lui ont fait un contrat extraordinaire.
C'est quoi le contrat?
C'est autour de 700 000 euros brut mensuel.
Ah ouais, c'est
donc
bon.
pour un gardien de but.
C'est un magnifique contrat.
C'est pas du tout un contrat pour gardien, ça d'habitude.
Si, non, mais pourquoi pas? Non, mais Gigi Buffon, lui, a un contrat qui est du même ordre. Hein. C'est du même ordre de grandeur. Donc c'est évidemment un contrat de numéro 1. Qu'ils lui ont fait à Alphonse Areola. Et il n'y a aucune raison d'avoir un numéro 2 à ce tarif-là. Enfin, ce serait un non-sens économique total. Alors, je sais qu'on n'est pas à l'abri, hein, évidemment, mais là, quand même, c'est surprise incroyable. Je ne vois pas du tout pour quelle raison Alphonse Areola bougerait cette année ou pourquoi il serait rétrogradé en numéro 2.
Bah, mais c'est logique.
La gamelle toujours aussi chaude et qui
Voilà, c'est tout simplement la
soupe.
Mais non, mais parce que c'est chiant, parce que c'est tout le temps les mêmes débats. Oui, tous les gens veulent rester au PSG. Bah pourquoi? Bah parce que ils sont grassement bien payés. Voilà. Mais
parce que en plus,
il y a pas de projet sportif.
Un gardien de but, oui, un gardien de but, c'est entre 200 000 et 400 000 euros par mois.
Bah, ça dépend des clubs. Ça dépend des clubs. Moi, j'ai pas une vision européenne des contrats.
Ah ouais,
mais De Réa, Oblak,
Thibaut
Courtois, il joue à Madrid.
Oui. Bah ouais, mais dans la gamme des salaires Paris.
Ter Stegen à Barcelone, il est pas payé avec des clubs
non plus.
Alisson,
ce qui est comparable aussi.
Il attaque un autre débat.
Alors là, il est pas comparable à tous les gardiens que vous avez cités. Je suis désolé.
Bah, il a pas encore fait les performances qui suffisent pour rentrer dans cette catégorie-là.
Exactement.
Mais il est annoncé comme, depuis ses 16 ans, on annonce qu'il a
le... Bon, c'est exactement le problème du PSG, c'est comme Verratti, il est annoncé comme, mais...
Non, moi, franchement, je pense pas que ce soit le problème prioritaire du PSG. Alors, non. On risque de me tromper, on n'est pas forcément d'accord, je sais qu'il a encore des petites limites, Alphonse, et le match de Lyon, par exemple, c'est l'exemple parfait, le mois de février, je sais pas si vous vous rappelez,
il fait un match de folie,
il est en lévitation, enfin, c'est extraordinaire, et puis il fait une petite boulette, là, et un problème d'appui.
Mais son match, comme Bouffet, il a été... Allemagne avec les Bleus me fait penser que Paris s'est pas trompé sur ce
match. Non, c'est un grand gardien.
Mais oui, j'en suis
c'est
sûr.
C'est un futur grand et c'est déjà un très bon gardien.
Donc on le met numéro 1 et Didier, on lui dit
on n'a pas les moyens là d'aller chercher autre chose. Ce serait fou de mettre 100 millions pour avoir Oblak il y a d'autres choses à faire.
Tu gardes
Areola, tu le mets en confiance, tu le mets numéro 1, tu lui rappelles les fondamentaux. Qu'il ne nous fasse pas une Kipembe ou un truc comme ça.
Ouais,
il redescend un peu les pieds sur terre. Et puis t'y vas, et il montre cette année, c'est sa chance, et il montre qu'il est à la hauteur.
Moi, franchement, c'est beau. Ça me rappelle un peu les histoires que mon père me racontait avant de dormir. Des histoires à dormir debout. Parce que, en vrai, la vérité, c'est celle-là. Il n'y a aucun joueur du PSG.
Il est hyper sérieux.
Non, mais parce que. Moi, je voudrais bien que tu me cites un joueur, tonton, parce que toi, tu le suis depuis plus longtemps. Ouais. Un joueur du PSG qui a été mauvais, qui avait le mauvais état d'esprit et qui, la saison suivante, a vraiment changé du tout au tout.
Neymar, oui.
À part lui. Ah, il m'a scotché.
Mais si c'est possible sur Neymar, c'est possible sur d'autres normalement.
Mais pourquoi? C'est quoi le problème avec Alphonse?
Non, je pense pas qu'il ait un mauvais état d'esprit.
Il
ait pris un peu le melon, c'est possible. Il est champion du monde. Mais d'ailleurs, les trois champions du monde français. Non, mais t'as surtout pris un peu le melon.
L'éventuel melonite, c'est pas le champion. Je pense pas que ce soit la Coupe du Monde. C'est ce qui a suivi après. C'est le nouveau contrat. Le nouveau contrat, ça te change la vie. Ça te change ta manière d'être. Tu vois ta fiche de paye. Ah ouais, quand même. Et puis tu dis que t'en as pour 5 ans.
C'est ce qui se dit dans le vestiaire. Oui, c'est ce que Neymar a dit, que certains jeunes n'écoutaient pas. On a conclu, nos amis du Parisien ont très justement...
Que Neymar ait ce point de vue-là, peut-être. Après, est-ce que c'est la vérité pure? Ça, c'est autre chose.
Je pense qu'un mec qui a montré ce qu'il a montré sur certains matchs, comme tu l'as dit, face à Lyon, avec les Bleus, face à l'Allemagne, on s'est pas trompé, c'est un très bon gardien. Après, mettons-le en confiance, il y a beaucoup d'autres chantiers à résoudre, à mon avis, avant celui de gardien. Ce serait une erreur de...
Donc, je résume, si ça a réagi, tu n'hésites pas, Émilie, moi je résume juste, Alphonse Areola en 1, à ma droite et à ma gauche, toi t'es moins partant là-dessus, Joss, et au numéro 2, tu mets quoi? Tu mets Didi, tu lui dis Didi.
Non, t'es Didier, ça suffit.
T'es un bon gardien numéro 2.
Entraîneur des gardiens.
Tu mets un jeune derrière.
Donc le petit polonais qui doit arriver.
Ouais. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Et s'il est gardien de la réserve de Chelsea.
Ouais.
Franchement, t'as Gigi Buffon. Après, vraiment, ce n'est que mon point de vue. Numéro 2, c'est quand même pas mal. S'il accepte ça, tu vas payer un numéro 2 à un tarif exorbitant. Mais pourquoi pas, t'as pas de frais de transfert.
Après, le numéro 2, faut aussi penser si t'as des blessés. Hein.
Bien sûr.
Non, mais ça, on est d'accord.
Et
Gigi,
là, encore une saison.
C'est vrai.
18h24 dans Tribune PSG. On parlera de la réforme. Juste un tout petit mot sur les tacles de Noël Le Graët contre le Paris Saint-Germain. Et derrière, Thomas Tuchel qui est en première ligne, deuxième ou troisième ligne. Il n'y a personne au PSG qui répond.
Bruno, petite précision sur le tacle, comme tu dis, de Thomas Tuchel. Alors, c'était à Perros-Guirec la semaine dernière.
Tout à fait. Noël Le Graët, toi, qui
Noël Le Graët, qui tacle le PSG. Il le fait de manière tout à fait délibérée. C'est pas un dérapage. Petite anecdote, la personne qui a enregistré ce son, son enregistreur ne marchait pas. à la première sortie de Noël Le Graët. Il demande à Noël Le Graët, désolé, mais ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut le refaire? Et le président de la fédération n'a pas hésité à refaire. Donc ça veut dire que c'était une sortie, j'ai envie de dire, calculée, délibérée.
Cadrée.
Et pourquoi? Parce que c'est un calcul, c'est un message politique. Il veut absolument que le PSG rentre avec lui dans cette opposition à la Ligue des Champions, ou en tout cas, qu'il solidifie autour de lui les opposants à cette réforme, en disant le PSG, on va le marginaliser un petit peu, et nous, on va être tout d'un bloc, on va être contre cette réforme.
On rappelle que cette réforme, justement, de la Ligue des Champions, c'est une espèce de... On va pas revenir dedans, ça va ressembler à une ligue fermée, etc.
Oui, mais moi, je pense une chose, c'est que l'erreur du PSG, sur ce coup, c'est de pas avoir été solidaire du foot français, parce que, avec l'équipe qu'ils ont, il y a qu'à regarder les résultats, ils ont jamais fini plus loin qu'à la deuxième place. Donc, de toute façon, tous les ans, ils sont en Ligue des Champions. Une mauvaise année,
ils
sont deuxième.
Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le PSG a aussi ses intérêts à défendre, ses intérêts économiques, et ce projet-là va dans leur sens, clairement. Et pourquoi pas? Et moi, j'entends aussi des fans, des supporters du PSG qui aiment le football, qui regardaient la Ligue des Champions. Là, j'en voyais dans un café de Levallois-Perret la semaine dernière, et qui disaient, mais la Ligue des Champions et cette Ligue fermée, c'est ça qu'on veut. On veut des matchs comme ça. On veut des matchs de haut niveau toute l'année, et on n'en veut pas 5 ou 6. On en veut 14, 15, 16, allez, pourquoi pas 20? Et donc, il faut l'entendre aussi, ça.
Moi, analyser aussi, si tu as toutes les semaines des PSG Real, des PSG Barça et des PSG Manchester,
quand t'arriveras le mois de mars, tu t'en auras plus.
Regarde juste comment on a meublé la période entre le tirage au sort des huitièmes de finale.
Ce que je veux te dire, Stéphane, c'est que tout le monde n'est pas contre la réforme. Aussi des gens, pas forcément uniquement des gens du marketing, qui pensent que ça peut être une bonne idée. Ouais. Voilà, ça existe aussi là, et le PSG a aussi raison de défendre ses intérêts.
En tout cas,
si ça s'oppose aux intérêts du foot français.
Le président de la Ligue, oui.
Ouais, moi, mon seul problème, c'est pourquoi c'est Tourelle qui répond. En termes de communication, parce que ouais, mais c'est
un silence total,
que ce soit lui qui réponde. Ouais.
Parce que Antero Henrique ne parle jamais. Et le président, lui, est absent.
Bilan des opérations, tu laisses.
Parce que la réflexion de Gret, très bien.
Tu n'en vois pas. Dans un club normalement constitué,
bien sûr,
normalement hiérarchisé, mais c'est le dernier qui doit parler, l'entraîneur. Il doit s'occuper du sportif. T'as un président qui doit dire, voilà, la direction a donné, le club a choisi.
Et surtout en ce moment. T'as un peu de mal.
Tu peux avoir un directeur sportif qui s'y retrouve, mais c'est pas l'entraîneur de parler.
Effectivement, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Allez, dernier thème dans Tribune PSG, 18h28, avec Mota, Thiago, quel gâchis, effectivement, qui a dit adieu à son équipe U19. Il leur a dit que c'était terminé. Alors, son bilan sportif est pas exceptionnel en tant que première année.
C'était sa première année, c'était l'occasion d'avoir quelqu'un.
On rappelle, il s'est fait sortir en Youth League, il a réussi à qualifier le PSG pour les barrages, mais son équipe s'est fait sortir. Ça a pas accroché les playoffs en U19, dégagé de la Gambardella par Fleury Mérogis, mais non, mais c'est vrai, il faut quand même souligner ce qui s'est passé, mais il a porté.
Mais c'est surtout un ancien du club. On n'arrête pas de se plaindre et de dire que quand on regarde les équipes réserves du Real, du Barça, du Bayern, c'est des anciens joueurs qui sont à la tête de ces équipes. Je ne suis pas sûr qu'elles gagnent tous les ans non plus la Youth League, mais c'était important d'avoir quelqu'un qui a quand même été la pierre angulaire du projet qatari toutes ces années-là.
Puis attention, c'est pas n'importe quel joueur.
C'est un joueur
avec une science du jeu.
Exactement.
Et en plus,
l'avait interviewé, rappelle-toi, l'année dernière. C'était fabuleux. C'est un mec fin. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi il s'est opposé à l'autre bourrin. Mais bon, ça, c'est encore autre chose.
Ça c'est fait. Antero Henrique,
pour dire un truc quand même.
On rappelle, il a refusé.
À décharge d'Antero, parce que parfois aussi, il faut aussi tout regarder.
Je regarde tout, mais c'est que
Thiago Motta, aussi par son mode de fonctionnement, il crée un peu de rigidité. C'est-à-dire, il a dit, ok, vous me donnez un groupe que je n'ai pas choisi, parce que c'était ça apparemment, il a eu un groupe, il n'a pas choisi les joueurs qu'il allait entraîner dans le groupe U19. Il dit, mais alors, dans ce cas, il n'y aura pas de passerelle, il n'y aura pas de changement, je ne donnerai pas mes joueurs, je ne prêterai pas mes joueurs à l'équipe réserve. On fait un petit état dans l'état, un club dans le club. Et c'est aussi cette forme de rigidité qui lui a été reprochée. Ce n'est, mais bon, ce n'est pas l'essentiel. Pour l'essentiel, à mon avis, de ce que j'en ai compris de cette histoire, c'est aussi un problème relationnel pur entre Thiago Motta et Antero Henrique. Mais comme entre Antero Henrique et la plupart des entraîneurs de jeunes du PSG.
C'est exactement ce qu'on disait c'est tout à l'heure avant que tu arrives. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un coup foireux cette année, il y avait Antero Henrique derrière. Alors, c'est peut-être lui le vrai président ou le mec qui prend les sales décisions, mais il s'est pris la tête avec Thiago Motta, avec Tuchel, avec Rabiot. Il nous a ramené Paredes. T'avoueras que le bilan, il est quand même lourdos. Et je dois en oublier encore deux, trois trucs qui traînent dans les
sacs. Il est dépité. Juste pour vous dire, pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir un match de la U19, Thiago Motta, moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir, en fait, au Paris Saint-Germain, ce qui se fait beaucoup dans certains clubs, c'est d'avoir une base, voilà, de jeu. Avec le bon vieux 4-3-3, hein, Thiago Motta, ça sera immuable, je pense, à toutes ces équipes. Mais on a pu voir les progrès techniques et tactiques, surtout de ces jeunes. Ils étaient fins tactiquement, ce qui n'est pas quand même, chez un U19, évident. Voilà,
il a réussi du bon boulot.
Non, mais c'est pour ça que c'est un futur grand entraîneur. Pour ça que cette histoire-là, c'est un gâchis incroyable pour le PSG. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, parce qu'il se débarrasse peut-être d'un rival potentiel à court ou moyen terme.
Oui,
mais je suis pas sûr que ce soit l'essentiel.
Non,
mais
il y a aussi ils sont invisibles là-bas.
Oui, mais c'est vrai que pour le PSG, c'est dommage parce que bon, après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que dans 2 ans, Thiago va revenir, il va reprendre l'équipe première. On n'en sait rien. Mais c'est vraiment un gâchis. Moi, je terminerai peut-être là-dessus. Il a quand même contribué largement à former un jeune joueur qui explose en ce moment à l'Euro U17. C'est Adil Aouchiche, à la hauteur d'un quadruplé encore en quart de finale, meilleur buteur. C'était pas le même joueur. Il y a un an, c'était pas le même joueur. Et avec Thiago Motta, il a explosé.
Exactement.
Effectivement. Tu voulais parler d'Antero Henrique, Joss.
Non, j'ai l'impression que quand on parle d'Antero Henrique, vous savez, on joue au jeu le loup-garou et lui, c'est le loup-garou et on est tous des villageois et qui se faisons manger les uns après les autres. J'ai l'impression que c'est l'élément un petit peu qui pose problème au PSG. Moi, j'ai un grand rêve, voilà, je vais le dire. J'aurais beaucoup aimé que Arsène Wenger vienne au PSG. Voilà, je pense que c'est l'homme de la situation qui dispose d'un bon réseau, qui a la bonne image aussi et qui pourrait être un bon communicant au détriment de Tourelle qui prend justement toutes les responsabilités et qui est sur tous les terrains.
Depuis 6 mois, il est sur tous les dossiers. Voilà. Depuis le 6 mars, il est sur tous les dossiers.
C'est
une catastrophe.
Un communicant, Arsène Wenger, et puis aussi un organisateur, un formateur. Donc il cochait beaucoup de cases.
Quelqu'un qui a de l'expérience.
Mais il faut croire que si Antero Henrique est toujours là, après 2 années, qui sont quand même assez contrastés, hein, pour dire le moins, il faut croire qu'il a une relation de confiance qui existe et qui perdure avec Nasser Al-Khelaïfi avec les propriétaires du club.
C'est plus que ça.
Il ne bougera pas. Hein.
Parce que justement, c'est pour ça que j'ai énuméré tout à l'heure toutes les casseroles. Un mec normalement pas protégé, il saute depuis longtemps. Il a fait que des cagades, il est encore là.
Est-ce qu'on pourrait nous expliquer c'est quoi la relation alors? Parce que nous, on aimerait bien savoir aussi, du coup, pourquoi il dispose d'un passe-droit aussi important.
Je pense que c'est probablement celui qui a dû donner le dernier coup de pédale pour Neymar et que ça n'a pas de prix. À mon avis.
Oui, mais ça le protège, mais jusqu'à quand? Parce que là, ça va faire 2 ans quand même.
Mais là, à première vue.
Donc il faut croire qu'il a aussi certaines qualités aux yeux des grands décideurs.
Exactement.
Mmh. Bah, en fait, ce qu'on entend à droite à gauche, c'est que ce qu'aime Nasser Al-Khelaïfi, c'est qu'il a rapporté de la rigueur. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de rigueur que ça au Paris Saint-Germain ces derniers temps. Ou en tout cas, il y a juste des gens qui
ils ont fait plier Rabiot. C'est ça la rigueur.
Ah tiens, journal du dimanche, le JDD, excellente enquête de Solène Cherrier qui nous fait un très très joli topo sur le cas Rabiot. Une enquête de 2 bonnes pages et vraiment à lire. Voilà, c'était juste une petite, je me permets de rebondir, effectivement, mais très très bon papier à lire. Je t'avertis, tonton, il n'y a pas que du bon pour ton poulain.
Mais c'est pas l'objectif.
On replace le contexte.
Je sais très bien qu'il a aussi commis des erreurs, mais pas que ça, quoi.
En tout cas... C'est terminé pour Tribune PSG pour aujourd'hui. On va remercier la cousine qui a réalisé cette émission. Merci Chloé.
Voilà. C'est une affaire de famille.
C'est une affaire de famille, effectivement, cette émission. Merci Joss.
Oui. Merci à toi Bruno. Je terminerai juste par Kingsley Coman, ancien joueur du PSG, qui s'est exprimé sur l'affaire Rabiot. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et il aurait annoncé que dans un grand club, ça ne se serait jamais passé comme ça pour un autre joueur.
Alors, voilà. Ça ne serait pas passé comme ça. Et Kingsley aussi, dans un grand club, on reste aussi et on se barre pas à la Juventus Turin. Voilà, ça c'est
allez bon, Bob.
Joss, merci. Qu'est-ce c'est quoi la prochaine vidéo, mon Joss?
La prochaine vidéo, c'est une vidéo sur l'artiste Shai qui a sorti son album Antidote.
Alors voilà. Tonton connaît, moi non, mais je vais y aller, bien sûr. Moi, demain matin dans le Parisien.
Oh, que des bonnes choses.
Bien non, sûr.
On passe le secteur médical du PSG au scanner.
Ah, très bien.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien.
Parce qu'il y a des vraies questions à se poser sur les blessures et tout ça. Voilà.
Bon, écoutez, on va lire ça demain matin dans les colonnes du Parisien à 8h10. Demain, tonton Steph, ici c'est France Bleu Paris. On va parler de quoi?
Un coup de gueule, le départ de Thiago Motta.
Eh ben, très bien. On parlera donc de Thiago Motta demain matin dans ici c'est France Bleu Paris ou en podcast, vous n'hésitez pas. Demain, tu fais quoi, Émilie?
Eh ben, je vais au boulot.
Elle reprend
le travail. Et je suis contente que tu m'aies demandé.
Voilà. Et on salue toute l'équipe d'Uni Team Sport. Salut,
Émilie. À demain matin, les copains.
À demain pour tes
de
collègues.
De bonheur et de bonne humeur.
La vraie bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a qu'une qui bosse ici. T'as entendu?
C'est vrai, j'aurais dit, ouais.
Moi, je vais au travail. Les autres, vous allez continuer à rien manger.
Allez, 18h38, dis donc, c'est grossiste, ils vont terminer ça.
Ah oui, voilà.
Alors, on a
gagné. Allez, ciao, ciao. Salut à toutes et à tous. Ciao.